Ce que vous avez en face de vous, c'est le titre initial de mes trois exposés que je vais faire ce matin, ce soir et demain. Mais des gens plus haut placés que moi ici ont proposé de donner comme sous-titre Genèse 1 à 12, deux points, de la déprime à l'espoir. Voilà, ce qui est un peu plus racoleur, mais qui en même temps est très bien trouvé. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Si vous alliez voir un film qui s'appelle « De la déprime à l'espoir », le film commencerait probablement par passer, disons, 20 minutes, quelque chose comme ça, à vous montrer quelqu'un qui est en train de déprimer grave. Dans le même esprit, mon premier exposé pourrait conduire à une déprime grave auprès de vous, et j'espère que ça ne sera pas le cas, mais je vais essayer de vous poser des problèmes que vous n'avez peut-être pas jusqu'à présent. Vous savez ce qu'on dit du couple, hein, on dit que le mariage, c'est régler à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Ça, c'est un proverbe classique. Ce qui n'est pas faux, hein, mais ça vaut la peine. En particulier avec une GBUcienne, c'est très bien. Et vous savez qu'on fait la théologie ou l'exégèse, en général, on résout à peu près, qu'on peut, des problèmes à plusieurs qu'on ne se serait jamais posé tout seul. Je vais ainsi essayer de vous montrer quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, je pense, sur les 11 premiers chapitres de la Genèse. Alors voilà le plan de mes trois exposés, c'est très simple. D'abord, je vais essayer de vous parler ce matin du fil rouge du plan de Dieu. Et ce fil rouge consistera en les généalogies. Je sais que c'est votre passage préféré, enfin, vous adorez, vous lisez ça, vous faites plein d'études GBU là-dessus, je vais essayer d'en parler quand même. Le deuxième point ce soir concernera Genèse 1 à 11, et j'essaierai de vous montrer qu'on peut y voir le plan de Dieu en creux. Une façon de vous montrer en fait que la déprime apparente que l'on trouve derrière ces 11 premiers chapitres, elle cache en filigrane ou en creux la solution géniale que le Seigneur a en réserve pour nous. Et le troisième plan, point, ça sera l'espoir si on peut dire, Abraham, je vais essayer de vous montrer que là le plan de Dieu s'enclenche et qu'il s'enclenche à tel point, vous savez, c'est comme des starting blocks, ça part tellement fort que ça arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, mon premier point concerne donc le fil rouge du plan de Dieu. Commençons par observer le texte, pour parler le langage gébéusien, en regardant un petit peu la Genèse, juste le plan. Le plan de la Genèse, ce n'est pas très compliqué, il vous est donné dans le texte. Pas la peine de se casser la tête. En effet, il y a des sous-titres. C'est ce qu'on peut voir sur cette diapo. Ces sous-titres, ils sont constitués par une formule récurrente qui apparaît 10 fois. Voici la descendance d'un tel. Voici la descendance d'un tel. Alors ça commence par le ciel et la terre, c'est d'ailleurs un petit peu étrange, mais ça n'est pas là pour rien, on verra. Puis on a la descendance d'Adam, de Noé, etc. Alors si y en a qui ont du mal avec la prise de notes, vous pouvez récupérer le PowerPoint auprès de Michael si ça vous intéresse. Voilà donc le plan de la Genèse. C'est pas très compliqué, même si c'est un petit peu étonnant comme manière de structurer un texte. Et nous allons nous pencher sur les premières étapes qui couvrent les 11 premiers chapitres. Alors, si je zoome sur ces étapes, qu'est-ce que je trouve? Voici la descendance du ciel de la terre, en premier. Voici le livre de la descendance d'Adam, descendance de Noé, etc. J'ai donc 5 grandes parties. Et puis à l'intérieur, j'ai noté, de manière très simple, hein, les épisodes qu'on rencontre au fur et à mesure. Le contenu entre ces sous-titres. Alors on trouve des choses très simples. Le récit d'Éden avec la chute, Genèse 3. L'histoire de Cain et Abel. Une généalogie, j'espère que vous le voyez, mais c'est en rouge en fait. Une géologie encore d'Adam, mais à travers Seth, un autre fils. C'est une version courte. Dans la deuxième partie, on retrouve une généalogie d'Adam par Seth, mais c'est une version longue. On va y revenir. Puis on a le fameux épisode assez mystérieux sur les fils de Dieu qui trouvent que des filles des hommes sont jolies, etc. Troisième partie, elle est tout entière dédiée au déluge, le fameux récit de Noé et du déluge. Quatrième partie, on a une bonne généalogie, une généalogie géographique. On vous montre que la terre est repeuplée à partir des fils de Noé, mais c'est présenté comme une généalogie. Et puis on a le fameux épisode de la tour de Babel. Dernière étape, c'est une pure généalogie, la généalogie de Sem. Alors, si vous regardez ce plan, je n'ai fait que recopier ce qu'il y a dans le texte. Vous vous retrouvez déjà avec 1, 2, 3, 4, 5 généalogies. 5 généalogies, et c'est en général les passages que l'on saute, ou qu'on lit vraiment à 200 à l'heure, et sur lesquels on ne s'attarde pas trop. Bon, maintenant, c'est normal, parce que ce n'est pas facile. Mais je vais essayer de vous montrer, non pas que ces passages sont des sortes de parenthèses qu'il faut laisser de côté, mais que votre pire cauchemar est réel. En fait, des généalogies, il y en a partout, et même là où vous ne croyez pas. Je vais essayer de vous montrer que les parties qui ne sont pas en rouge sur mon plan, fils de Dieu, Caïn et Abel, etc., tout ça, en fait, loin d'être les épisodes principaux qui sont malheureusement interrompus par des généalogies, ben en fait, c'est l'ossature même du texte et que c'est le contraire qui est vrai. Ce sont les récits que vous aimez bien sur Caïn et Abel, le déluge, etc., qui sont des parenthèses dans les généalogies. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Première étape, on s'attaque à Caïn et Abel. Vous voyez, sur mon plan, si tu remontes, on a, dans la première partie, on a Caïn et Abel, généalogie de Caïn, généalogie d'Adam via Seth. Mais je vais essayer de vous montrer que c'est faux de présenter les choses comme ça. Même si je l'ai fait naïvement, en prenant ma Bible, en recopiant simplement les parties qui apparaissent. C'est faux. Pourquoi c'est faux ? Eh bien, ouvrons la Bible en Genèse chapitre 4. Alors, vous ouvrez ou vous regardez, vous suivez ce que j'ai mis. Regardons ça de plus près. Quel est le contenu de ce chapitre ? Si on regarde les versets, disons, 3 à 16, on a l'impression qu'on a avant tout un récit. Le fameux récit de Caïn et Abel. Caïn tue son frère. Et puis on enchaîne avec ce qui a quand même l'air pas mal d'une généalogie. Parce qu'on vous dit, Caïn connut sa femme, elle devint enceinte, elle accoucha de Hénoc. Après on parle de Hénoc dont il naît Irad. Irad engendre Mehuyaël. Mehuyaël engendra Métouchaël. Etc, etc. Ça continue, il y a une généalogie. Donc on a l'impression que dans ce chapitre, il y a en gros deux parties. Un bon récit, qu'on aime bien. Une généalogie avec des gens pas très recommandables d'ailleurs. Les descendants de Caïn. Et puis tout à la fin, il y a les descendants d'Adam à travers Seth. Mais si on regarde un petit peu mieux comment le chapitre se présente lui-même, on se rend compte qu'il y a trois formules d'introduction. Le plan est donné par le texte lui-même. Tout d'abord, au début, vous avez Adam connu Ève, sa femme. Connu, uté, bien sûr. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Ça, c'est versets 1 et 2. C'est comme le début d'une généalogie. Deuxième sous-titre, formule quasiment identique, Caïn connut sa femme, elle fut enceinte et mit au monde Hénoc. Au verset 17. Et puis là, vous avez une bonne généalogie que j'ai encadrée. Généalogie de Caïn avec ses descendants. Et puis au verset 25-26, on reprend. Adam connut sa femme. Connut encore sa femme. Elle mit au monde un fils, etc., etc. Vous avez trois sous-titres quasiment identiques à ces trois étapes. Les deux dernières parties, introduites par ces sous-titres, c'est clair que c'est des généalogies. Un tel connu, un tel, engendra, etc. Le vocabulaire est clair et net. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec le récit de Caïn et Abel ? Pourquoi est-ce qu'on a un long récit comme ça, alors qu'on avait commencé comme si c'était une généalogie ? Adam connut Ève, sa femme, elle mit au monde un enfant, etc. Pourquoi un tel récit ? Il faut regarder un peu ce qu'on appelle la big picture en anglais. Qu'est-ce que l'auteur de ce chapitre est en train de nous faire ? Il nous présente les enfants d'Adam, son arbre généalogique descendant, dans les trois directions qui existent, avec ses trois fils. Et ces trois fils, c'est qui ? On a d'abord Abel, on a Caïn, et on a Seth. Eh bien, vous avez trois parties de ce chapitre qui correspondent. Sauf que, on peut raconter des choses sur les enfants de Caïn, les enfants de Seth. Mais qu'est-ce qu'on va raconter sur Abel ? Pas grand-chose, puisqu'il n'a pas d'enfant. Eh bien, le récit de Caïn et Abel est là pour vous montrer pourquoi il n'a pas d'enfant. Parce qu'il a été tué par son frère. Autrement dit, ça n'est qu'une parenthèse explicative pour vous suggérer qu'en fait, on ne peut pas en dire beaucoup sur Abel parce qu'il n'a pas d'enfant, parce qu'il a été tué par son frère. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur Caïn et Abel, hein, on pourrait en tirer plein d'applications. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais si on regarde la big picture, c'est ça la réalité. Donc, si je suis logique et que j'essaie de faire un plan plus correct que ce que j'ai proposé tout à l'heure, je tombe sur la chose suivante. En fait, après le récit d'Éden et la chute, j'ai une seule chose au chapitre 4. Une seule grande généalogie en trois étapes, comme je viens de vous le suggérer. Alors déjà, ça me mange un récit et ça m'unifie une partie, tout un chapitre qui est une généalogie. Alors, vous allez me dire, ok, Caïn et Abel, formellement, d'accord, trois étapes, du vocabulaire généalogique, on comprend, enfin j'espère, Genèse 4, globalement c'est une généalogie, avec une bonne parenthèse, sous forme de récit. Très bien, bon. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire avec mon épisode mystérieux des fils de Dieu? Et qu'est-ce qu'on va faire avec le déluge? Ça, ça paraît quand même difficile, ça ferait quand même des méga parenthèses. Et dans quelle généalogie? De qui? Alors pour comprendre, je vous propose de nous pencher sur une généalogie que vous aimez bien, celle du chapitre 5. Vous voyez dans mon plan là, c'est ce qu'il y a dans la deuxième partie, la première ligne en rouge. Généalogie d'Adam via son fils, son troisième fils, Seth. Et c'est une version longue. Je vous propose qu'on la regarde ensemble. Je vous propose qu'on essaye de suivre les étapes de cette généalogie, les unes après les autres. Alors, on va regarder ensemble. Allons-y, première étape, versets 3 à 5. Il y a trois choses qui se suivent. On vous dit d'abord, quand Adam eut vécu 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et il l'appela du nom de Seth. Très bien. Les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Et bien après, on vous donne le total en troisième étape. C'est ça que j'ai mis A, B, C. Les jours que vécut Adam furent en tout de 930 ans, puis il mourut. C'est un peu comme un formulaire administratif, quoi. Voilà, tac, tac, tac. C'est simple, c'est clair, c'est net. Passons au verset suivant. Maintenant, on enchaîne sur 7. C'est logique, hein, étape suivante. Quand 7 eut 105 ans, il engendra Enoch. Bah, c'est comme la partie A de juste avant. Je continue. Après qu'il eut engendré Enoch, Seth vécut 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Bah tiens, c'est la même formule que le B qui précède, vous êtes d'accord? Et puis troisième étape, les jours de Seth furent en tout de 912 ans, puis il mourut. Bah c'est le total. Donc vous commencez à comprendre, il y a trois étapes, et c'est relativement simple. D'abord, on vit un certain temps, on a un fils, puis ensuite, on vit un certain nombre de temps, on survit à la naissance de ce fils, je ne sais pas combien de temps. Et puis après, on fait le total. A, B, C. J'aurais pu mettre un signe égal, presque. Ça va? C'est pas très... A plus B égale C, c'est presque ça. Bon, ben continuons. Verset 9 à 11. A, c'est le tour d'Enoch. Quand Enoch eut vécu 90 ans, il engendra Kenan. C'est l'étape A. Après qu'il eut engendré Kenan, Enoch vécut 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Étape B. Les jours d'Enoch furent en tout de 950 ans, puis il mourut. Étape C. On continue. L'étape suivante. Ah, c'est ça. Ben oui, c'est parce qu'on retrouve Kenan. Quand Kenan vécut 70 ans, il engendra Mahalalel. C'est l'étape A. Après qu'il eut engendré Mahalalel, Kenan vécut 840 ans. Il engendra des fils et des filles. C'est l'étape. Les jours de Kenan furent en tout de 910 ans. Puis il mourut, c'est l'étape. On continue. Quand Mahalalel eut vécu 65 ans, il engendra Yéred. Après qu'il eut engendré Yéred, Mahalalel vécut, ça c'est un bon prénom pour vos enfants, vécut 830 ans et il engendra des fils et des filles. Étape, ça va, vous suivez. Quelqu'un a dit D. Les jours de Mahalalel furent en tout de 895 ans, puis il mourut. Étape, on continue. Pas ma faute, c'est le texte biblique. Hein. Quand Yéred eut vécu... Mais c'est inspiré, c'est très bien, hein, moi je trouve ça. Quand Yéred eut vécu 162 ans, il engendra Enoch. Étape, après qu'il eut engendré Enoch, Yéred vécut 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Étape, les jours de Yéred furent en tout de 962 ans, puis il mourut. Étape, ça va, ça vous suivez. Quand Enoch vécut 65 ans, il engendra Mathusalem. Ah. Après qu'il eut engendré Mathusalem, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Ça, c'est intéressant. Et il engendra des fils et des filles. Étape. Les jours d'Enoch furent en tout de 365 ans, puis il disparut car Dieu l'avait pris. Étape. On continue. Quand Mathusalem vécu 187 ans, il engendra Lamec. A. Après qu'il engendré Lamec, Mathusalem vécu 872 ans et il engendra des fils et des filles. Étape. Les jours de Mathusalem furent en tout de 969 ans et il mourut. Étape. On continue. Quand Lamec eut vécu 182 ans, il engendra un fils qu'il appela du nom de Noé en disant « Celui-ci, dit-il, nous consolera de notre tâche et de la peine de nos mains qui vient de ce sol qu'a maudit le Seigneur. » Il y a une variante, mais fondamentalement, c'est l'étape. Après qu'il l'a engendré Noé, Lamec vécut 595 ans, il engendra des fils et des filles. Étape. Les jours de Lamec furent en tout de 777 ans, puis il mourut. Étape. On continue. Quand Noé fut âgé de 500 ans, Noé engendra Sem, Cham et Japhet. Étape. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier à la surface de la terre et qu'il leur furent nés des fils, des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Étape. Ah, ça c'est le réflexe de Pavlov. Ben non, on est d'accord, c'est pas l'étape B. C'est pas l'étape C non plus. Pourtant, ça commençait bien, c'était l'étape A, on est d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le type a... L'auteur a oublié? Il a dit, je vais switcher sur l'histoire de Noé et j'oublie le B et C, tant pis. Alors, où sont passés B et C? En fait, ils sont dans le texte. Ils sont morts. Ils ont engendré des fils et des filles, ils ont vécu longtemps, on est d'accord. Alors, quelqu'un sait peut-être où ça se trouve? Pas ceux qui ont suivi mes cours, hein. Hein, les GBUciens, la Relais et compagnie. On retrouve l'étape B et l'étape C sous une forme étonnante, plus loin dans le texte. Alors, en théorie, il faudrait passer du temps pour feuilleter sa Bible et tomber dessus, mais il me reste 27 minutes et 48 secondes, donc je ne vais peut-être pas vous laisser mariner pendant trop longtemps. Prenez la fin du chapitre 9. Regardons la fin du chapitre 9. On a une longue histoire. D'abord, on a eu les fils de Dieu. Puis on a le récit du déluge et de Noé. Après le Noé, il y a une histoire un peu bizarroïde. C'est la réalité des hommes. Hein. Entre Noé et ses fils. Et puis tout à la fin, au verset 28, Noé vécut encore 350 ans après le déluge. La durée totale de sa vie, les jours de Noé, si vous voulez, furent de 950 ans, puis il mourut. Vous avez l'étape B. Après le déluge, après cette étape, il vit encore, et le total, étape C. Alors, regardons ça. Oh ben, c'est déjà là. On avait une autre étape A, qui était à la fin du chapitre 5, quand Noé vécu. Bon, étape A. Méga récit, fils de Dieu qui débouche au déluge. Et puis, à la fin du chapitre 9, versets 27-28, étape B et étape C. Sauf que là, c'est pas après la naissance du fils aîné, c'est après le déluge. Parce que manifestement, l'épisode central de la vie de Noé, c'est le déluge. Et puis on a le total, étape C. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'auteur, en prenant ses feuilles qu'il vient d'imprimer, a malencontreusement glissé, après la fin du chapitre 5, plusieurs chapitres, et il a fait un mauvais copier-coller avant, et on retrouve la fin du chapitre 5 après trois chapitres. Hypothèse A. L'auteur a fait exprès, hypothèse B. J'arrête là les bêtises. L'auteur, manifestement, a fait exprès. S'il n'avait pas fait exprès, il n'aurait pas adapté ses formules comme ça, après le déluge, et pas après la naissance du fils aîné. Donc c'est manifestement voulu. Mais si on tient compte de ça, si on tient compte de ce que l'auteur a voulu faire ça, eh bien, maintenant, je pense que vous êtes obligé d'admettre avec moi que le rectangle que j'ai mis au milieu, là, le déluge, qui court sur trois chapitres, 6, 7, 8, 9, 4 chapitres en fait. 4 chapitres, sauf les tout derniers versets, 27-28. Ce long passage, plein de récits chatoyants, eh bien, d'un point de vue formel, du point de vue du plan du texte, eh bien, ce n'est qu'une parenthèse entre A et B dans cette toute dernière étape, la dixième, de la généalogie du chapitre 5. Si je reprends mon plan d'ensemble, dans ma deuxième partie de la Genèse, en fait, je n'ai qu'une immense généalogie qui commence par un peu, par 9 fois A, B, C, A, B, C, A, B, C. La 10e fois, fin du chapitre 5, je n'ai plus que le A. Grand récit sur les fils de Dieu et le déluge, et j'ai le petit C à la fin. Donc, ce méga récit, l'auteur est loin d'avoir perdu le fil de ses idées, il l'a inséré comme une parenthèse à la fin de la généalogie du chapitre 5. Vous voyez donc de ces récits-là, qu'on aime bien, hein, l'école du dimanche, on aime bien Noé, le déluge, l'arche, je sais pas, enfin, dessinez pas l'arche au début quand même, mais bon, à l'école du dimanche, ça marche bien avec les animaux et compagnie. Hein. Mais ce grand récit, ça n'est qu'une parenthèse dans la généalogie du chapitre 5. C'est pour ça que je me suis permis de mettre tout ça en rouge. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme passage qui ne serait pas de la généalogie là-dedans? Il ne serait pas lié à une généalogie. Il nous reste la tour de Babel. Oui, mais la tour de Babel, si vous regardez bien, en fait, ça semble bien être un zoom à l'intérieur de la généalogie qui précède. Je m'explique. Qu'est-ce que vous avez dans la généalogie sur les trois fils de Noé? On vous présente les trois fils de Noé, leurs descendants, en termes de peuple, qui se sont dispersés sur la terre. Et au chapitre suivant, récit de la tour de Babel, on vous montre quelque chose qui se passe localement à Babylone. Babel, c'est pareil. Un cas de dispersion où c'est le Seigneur qui pousse en quelque sorte les hommes. Il fait échouer leur entreprise, construit une méga ville, une méga tour, et il les disperse. Or, Babel est déjà mentionné au chapitre 10. Avant qu'on vous dise au chapitre 11, les hommes ont commencé à construire la ville, et pas seulement la tour, hein, la ville, regardez bien le texte, de Babel, de Babylone, elle est déjà mentionnée au chapitre 10. En d'autres termes, on peut raisonnablement penser que le chapitre 11, récit sur la tour de Babel, c'est un zoom sur une petite partie du grand arbre généalogique du chapitre précédent, chapitre 10. Ce qui fait que, je pense que récit de la tour de Babel, en fait, il se rattache au récit qui précède. Avec ça, qu'est-ce qui nous reste? Dans mon processus d'élimination des récits, montrer que c'est toujours lié à une généalogie, ben il ne me reste plus que Éden et la chute. Et c'est là qu'on revient sur quelque chose d'étrange que j'ai mentionné au début. Quel est le sous-titre qui introduit la partie sur l'histoire du jardin d'Éden, Adam et Ève, et puis la chute, le serpent, le fruit et compagnie? Quel est le sous-titre? Voici l'histoire d'Adam et Ève? Non. Voici l'histoire du ciel et de la terre. On a voulu englober toute cette partie-là comme, c'est étonnant, hein, la descendance du ciel et de la terre. Cette partie-là aussi est présentée comme la descendance de quelqu'un. Vous voyez que les sous-titres correspondent exactement au contenu. À chaque fois, on a voici une descendance. Aussitôt après, on a une histoire liée à une généalogie. Et mais même là, c'est vrai. Si on tient compte du fait, poétique, ou etc., mais je pense que c'est plus profond, que pour l'auteur de la Genèse, l'histoire qui se passe au Jardin d'Éden et son expulsion, l'expulsion du Jardin d'Éden, tout ça, ça fait partie de l'histoire du ciel et de la terre. C'est ça le sous-titre qui est donné à cette partie. Voici une descendance, donc c'est une généalogie. C'est une étape d'une généalogie. Ce qui fait qu'au total, il ne reste plus rien là-dedans qui ne soit lié ou qui ne soit carrément une généalogie. Soit c'est une parenthèse dans une généalogie, soit c'est une généalogie directement, soit c'est un flashback, comme dans la tour de Babel, un zoom sur l'étape précédente, soit c'est carrément présenté de manière assez mystérieuse, hein, comme la descendance du ciel et de la terre. Donc si vous me suivez, non seulement il y a quelques chapitres, parfois pas toujours agréables à lire, pour nous, modernes, hein, notre conception de la lecture actuelle, qui sont des généalogies, ben en réalité, l'ensemble de Genèse 1 à 11, d'après la volonté de l'auteur lui-même, on l'a vu, hein, pour l'histoire de Noé, l'ensemble est présenté comme une immense généalogie qui ne s'arrête jamais. Ça se suit de manière logique, les choses avancent, on a une seule généalogie. Ça va, vous me suivez? Ouais. Je ne sais pas si ça vous paraît être une bonne nouvelle, ce que je viens de vous dire. que l'ensemble soit une généalogie. Peut-être que vous aurez une objection. Vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ce que tu as mis tout en haut ? Création du monde. C'est pas un détail, ça. Est-ce que c'est présenté comme une généalogie ? Non. Est-ce que c'est un problème ? Non. Je fais les réponses, hein, comme ça, c'est... C'est comme les hommes politiques qui posent des questions et donnent les réponses. Et puis, fait comme ça. Pourquoi ça ne serait pas un problème ? Je donne encore la réponse. Ce n'est pas très fin, mais bon. Parce que la création du monde, ça ne saurait être une descendance. Quand Dieu crée, c'est très clair dans la Bible, on a des passages qui l'affirment nettement, il le fait ex nihilo, comme on dit. Il n'y a rien au départ, et d'un coup, il y a quelque chose. Mais Dieu n'engendre pas le monde. Il le crée à partir de rien. On ne peut pas confondre les deux, on ne confond pas les torchons et les serviettes, si je puis dire. Ce n'est pas du tout le même niveau. L'acte de création, c'est quelque chose d'inouï, de miraculeux, qui n'appartient qu'à Dieu. L'acte d'engendrement, hein, quand on a un enfant, etc., ça c'est quelque chose qui appartient au sein de la création, qu'il a déjà créée. Donc il convenait que l'auteur ne donne pas de sous-titre, en quelque sorte, à la toute première partie. Ça aurait été inapproprié. En revanche, dès que le monde est créé, les choses se mettent en place. Et en fait, l'engendrement, le fait d'avoir des enfants, une descendance, hein, relaye le même mouvement que la création. Dieu a créé, c'était son œuvre, et à partir de là, la tâche essentiellement des êtres humains, c'est d'engendrer, d'avoir des enfants, des fils et des filles, et de remplir la terre. Vous voyez un petit peu cette logique, hein. L'auteur ne perd vraiment pas le fil de ses idées, hein, c'est très très clair dans sa conception des choses. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est une immense généalogie. Il y a une dernière étape que je dois vous présenter. Une autre généalogie. On va passer un petit peu plus vite peut-être. C'est la dernière, celle de Sem. J'essaie de montrer encore une étape suivante. Regardons ça, la généalogie de Sem au chapitre 11. Alors la première étape, on a A et B, on retrouve A et B. Sem, donc chapitre 11, hein, âgé de 100 ans, engendra Arpakshad. 2 ans après le déluge. Sem vécut, après la naissance d'Arpakshad, 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Et puis, il n'y a pas l'étape C. Dans le chapitre 11, l'auteur a décidé de ne pas mettre le total. Pourquoi ? Ça, il faudra en parler dans une autre séance. Bonne question. Mais on a les étapes A et B, de la manière qu'on avait A, B, C. C'est les mêmes étapes, hein, les deux premières, que ce qu'on avait vu au chapitre 5. Étape suivante, Arpakshad, âgé de 35 ans, engendra Shelar. Arpakshad vécut après naissance de Shelar 403 ans, il engendra des fils et des filles. Vous voyez qu'on reprend A et B. Et ainsi de suite, je saute, hein. On ne regarde pas dans le détail, mais c'est AB, 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 AB. Bon, ça continue même, mais diapo suivante. AB avec Peleg, AB avec Réu, AB avec Serug, AB avec Nahor, comme vous voulez. A avec Terra. Ah bah tiens. Il manque le B. Vous n'avez pas le B. Vous m'avez suivi ? On a 9 fois AB, 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 AB. Donc normalement, si vous êtes habitué, hein, vous retenez la formule comme tout à l'heure. Et la dernière fois, on a juste le A. Et aussitôt après, eh ben c'est fini. C'est fini parce qu'on a une nouvelle formule d'introduction. On est dans une nouvelle partie de la Genèse. On est dans la partie qui concerne Abraham. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça commence pas au chapitre 12. L'histoire d'Abraham, ça commence à la fin du chapitre 11, au verset 27, si ma mémoire est bonne. Voici la descendance de Terah. Et la descendance de Terah, ça commence par qui ? Par un de ses fils, Abraham. On présente toujours les gens comme la descendance de quelqu'un. D'ailleurs, en hébreu, vous dites un tel, c'est le fils d'un tel. Ben Ezra, par exemple. Ça sert de nom propre, fils de Ezra. C'est comme ça. On est toujours le fils de quelqu'un. Ce qui veut dire que votre partie Genèse 1 à 11, globalement, ouvre directement sur Abraham. Si vous n'avez pas Abraham, c'est incomplet. Il manque votre étape B. Il manque quelque chose. Mais en même temps, c'est normal qu'on ne dise pas tout de suite l'étape B. Pourquoi ? Parce que Abraham, est-ce qu'on peut raconter facilement, tiens, bah oui, il a eu un fils comme ça. Ça va nous prendre un bon paquet de chapitres avant qu'Abraham ait un fils, c'est justement un problème. Et l'auteur marque un coup d'arrêt. Il dit maintenant, je vais vous raconter une longue histoire. Comment est-ce que Abraham, à 100 ans, a pu avoir un enfant, a pu avoir un fils. Vous voyez un petit peu la logique ? Cette structure-là, ce B qui manque, c'est fait pour ouvrir sur l'histoire d'Abraham. Genèse 11, c'est incomplet sans Abraham. C'est ça qu'il faudra le considérer demain matin. On va déjà en parler un petit peu. Mais de plus, c'est logique, parce que Abraham avait un souci pour avoir un fils. Alors, jetons un petit coup d'œil. Je vais essayer de vous montrer qu'en fait, c'est tellement bien fait ces histoires que, même si on parlera plus d'Abraham demain matin, l'auteur est loin de perdre la logique qu'il vient de suivre pendant 9 étapes. A, B, A, B, A, B. Qu'est-ce qu'il nous dit là dans ces A, B sur les gens ? Quelle est la grande étape de la vie des personnages qui sont mentionnés ? Quelle est la grande étape qu'on retient ? La seule chose qu'on vous dit sur ces gens-là, ils ont eu un fils. Les enfants, il y en a d'autres, mais on ne sait même pas lesquels. On vous donne le nom du fils aîné. C'est ça qui coupe la vie en deux de ces gens-là, à tel point qu'on vous dit la durée avant et la durée après. C'était la même chose au chapitre 5, vous vous rappelez, hein ? Donc là, à chaque fois, on vous dit, ce type-là, la seule chose que je vais vous raconter dessus, c'est qu'il a eu un fils, et ça a coupé sa vie en deux. Ce qui me paraît logique maintenant. Bon. Alors, pour comprendre, regardons à grande échelle, juste la big picture, sans rentrer dans les détails, au sujet d'Abraham. Vous savez comment ça se présente, l'histoire d'Abraham ? Vous avez déjà été surpris de lire deux fois la même chose au sujet d'Abraham ? Mariotte fait oui de la tête. Mais elle a suivi mes cours, faites attention. Parce que si on regarde bien sur l'histoire d'Abraham, deux fois, Abraham fait passer Sarah pour sa sœur auprès d'un roi étranger. Une fois, c'est avec les Philistins, une fois, c'est avec les Égyptiens. Ce qui fait que sa femme Sarah, la prunelle de ses yeux, se retrouve entre les mains d'un chef d'État étranger, le Pharaon ou le roi des Philistins. Et ça arrive deux fois. Ça arrive au chapitre 12, ça arrive au chapitre 20. Mais c'est pas tout. Il y a deux fois où on vous dit que Dieu fait alliance avec Abraham. On peut toujours discuter, est-ce que c'est la même alliance qui est renouvelée, approfondie, explicitée ? Mais c'est à deux épisodes différents. Deux fois, le Seigneur apparaît à Abraham et on nous donne un récit d'une alliance. Et ça se retrouve au chapitre 15 et au chapitre 17. Tiens donc. Mais c'est pas tout. On a deux séries de textes qui nous parlent de son neveu, Lot. Alors vous connaissez, hein, Lot, vous connaissez surtout sans doute l'histoire de Sodome et Gomorre. Hein, Lot, finalement, il va échapper à la destruction de Sodome. Hein, ça, c'est vers les chapitres 18 suivants. Mais il y a un premier épisode qui le concerne, qu'on oublie souvent, c'est au chapitre 14. Autant au chapitre 18-19, Abraham va intercéder. Il va permettre que Lot soit sauvé de la destruction de Sodome. Mais autant au chapitre 14, Abraham sauve déjà son neveu. Il va déjà à sa rescousse parce que Lot avait été fait prisonnier par une coalition de rois, etc. Donc il y a deux fois où on a des récits sur Lot et où Abraham vient le délivrer, ou le fait délivrer d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? C'est qu'on a des pères comme ça. Mais ce qui est bien fait, c'est que ce n'est pas un hasard si on a des paires de textes, c'est que ça se répond de manière harmonieuse. Et c'est ce qu'on peut voir sur la diapo suivante. Ne vous affolez pas avec les A, B, etc. Vous avez peut-être déjà droit de temps en temps au GBU. C'est juste pour dire qu'il y a des choses qui se répondent. Regardez, au centre, presque au centre, vous avez E'. C'est l'alliance avec Dieu, chapitre 15 et 17. Vous êtes d'accord ? C'est ce que je vous ai dit. Hein. Bon. Juste avant et juste après, vous avez des épisodes qui concernent Lot. On a, étape D, la guerre contre Sodome et Gomorre, Lot qui est délivré. Et puis, étape D', on a la destruction, destruction de Sodome et Gomorre, et Lot qui échappe. D'accord ? Ça se correspond encore. En C et C', on a Sarah qui se retrouve un coup chez le Pharaon, un coup chez Abimelech, le roi des Philistins. Ça se correspond encore, on est d'accord ? Vous voyez, comme ça, en fait, c'est joli, hein. Ensuite, si on remonte un petit peu, on a la fameuse promesse que Dieu fait à Abraham. Hein ? Il lui dit de déménager, si je simplifie les choses. Il lui fait une méga promesse, on en parlera demain matin. Hein ? Il va lui donner une descendance, nombreuses alors qu'il n'a même pas de fils, etc. Et j'essaierai de vous montrer demain qu'en B', on a le début, les prémices de la réalisation de cette promesse. Ce qui fait que ça se correspond encore. Et puis finalement, au début et tout à la fin, on a une petite histoire sur la famille d'Abraham. C'est pour ça que ça ne commence pas au chapitre 12, ça commence au chapitre 11, l'histoire d'Abraham, tout à la fin du chapitre 11. Voici la descendance de Terah, la famille d'Abraham, si vous voulez. Ça va ? Vous voyez comme c'est fait ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on trouve au centre ? Si je demandais à quelqu'un au hasard avant de montrer ça, il me dirait peut-être la naissance d'Isaac. Ah ben non, c'est la naissance de qui ? D'Ismaël. Et pourquoi ? C'est le fils aîné. C'est le fils aîné qui se retrouve au centre exact de l'histoire d'Abraham. De la même manière que dans la généalogie incomplète qui précède, volontairement incomplète, c'est la naissance du fils aîné qui couple en deux la vie de chacun des patriarches. Vous voyez que l'auteur, celui qui a rassemblé tous ces textes, qui nous a fait ce texte biblique, est loin de perdre le fil de ses idées. Il a un principe général qui gouverne l'ensemble de ses récits. Il est intéressé par la notion de généalogie, d'engendrement. C'est capital pour lui. Et il ne perd jamais le fil de ses idées. Même quand il a l'air de raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec les généalogies, ça fait partie des généalogies, ça y est lié étroitement. Et même quand il a l'air de couper la dernière étape tout à la fin en disant bah « tiens, j'ai oublié le tout dernier verset, le petit B là au chapitre 11 », ben en fait, c'est qu'il va vous prendre plus de 10 chapitres pour vous raconter l'histoire d'Abraham avec au centre ben, ce petit B que vous attendiez tant. Vous voyez un petit peu cette logique d'ensemble ? Hein ? Il faut avoir cette notion de bon, big picture, hein, c'est la bonne expression, hein, bon, c'est comme ça. Cette notion, loin d'être une série de petits récits gentillés, hein, plus ou moins colorés, dont on pourrait tirer des leçons de morale, bon, c'est vrai aussi. Il y a plein de choses, il y a plein d'applications à en tirer. Loin d'être seulement ça, Genèse 1 à 12, et même la suite, correspond à un plan d'ensemble extrêmement bien conçu de la part de l'auteur, avec une visée profonde derrière. On a même plusieurs visées profondes derrière. Et c'est sur ça que je voudrais conclure. Une fois qu'on a vu tout ça, quel serait le message ? Qu'est-ce que ça nous apprend, le fait qu'on ait une telle manière de structurer Genèse 1 à 12 et la suite ? Pourquoi tout cela ? Pourquoi prendre de la peine à nous raconter des généalogies avec des durées, même difficiles d'ailleurs, hein ? Pourquoi ces noms ? Pourquoi ces successions, etc. ? Pourquoi faire en sorte que ces si beaux récits, sur, bon, beau, c'est toujours dramatique, hein, Cain, Abel, Noé, etc., ne soient que des parenthèses intérieures de généalogie ? Quelle est l'idée derrière ? Ah ben, il y en a plusieurs. Alors, je vous propose plusieurs messages. Le premier, je l'ai déjà dit, je le recueille maintenant, je vous le signale. L'engendrement prend le relais de la création. Vous savez qu'on vous dit au début de la Genèse que Dieu crée l'homme à son image. Mais on a l'impression parfois qu'on considère que Dieu est là-haut, il fait ce qu'il veut, il a créé le monde, il est tout-puissant, et puis nous, on fait notre petite vie à côté. Enfin, à côté. Dans le meilleur des cas, en lui donnant une place dans notre vie. Mais en réalité, dès le début, le Seigneur donne une mission aux êtres humains. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça ne veut pas dire que chaque homme, chaque femme doit avoir des enfants, qu'on ne peut pas être célibataire. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Mais ça veut dire que le plan global qu'il donne à l'humanité est presque en continuité directe avec ce qu'il a fait. Il a créé le monde. Tout est en place. Tout est pris pour qu'il y ait une vie qui s'anime. Mais c'est à l'homme et à la femme de permettre que les étapes s'enclenchent et que l'histoire avance au fil des générations. Ça, c'est la première étape. Il faut bien comprendre, c'est une de nos façons, sans doute, d'être en image de Dieu. Dieu a créé des choses. Il a même engendré un fils. Mais alors là, on rentre dans des choses encore plus subtiles. Vous n'avez qu'à lire le livre de David Brown sur la Trinité, d'ailleurs. Il a engendré un fils à son image. Nous aussi, nous engendrons des enfants à notre image. Donc, il y a quelque chose, un lien entre les deux qui est souvent perdu dans notre esprit. Première chose. Deuxième chose, quand vous tombez sur cette généalogie, la première grosse généalogie du chapitre 5, il y a quelque chose qui vous frappe peut-être pas. On l'a lu un paquet de fois. Hein. J'ai lu un paquet de fois, je vous ai fait réciter A, B, C. Quelque chose qui est choquant. qui est choquant si on se met vraiment dans l'esprit de lire le texte tel qu'il se présente depuis le début, en faisant abstraction de tout ce qu'on sait. Non, on va suivre, on va commencer, on prend le commencement comme le commencement. Ce qui est choquant, c'est que tous ces types-là qu'on vous nomme, eh bien, ils meurent. À chaque étape, il y a une mort. C'est une hécatombe. Or ça, ça n'aurait jamais dû arriver. Ça n'aurait jamais dû arriver. L'homme avait le choix. Dieu lui avait dit, le jour où tu mourras. Ça n'aurait jamais dû arriver, cette hécatombe. On devait avoir des enfants, mais on n'était pas fait pour mourir avant, de les voir grandir, etc. parfois. Cette mort qui est omniprésente, c'est un message du texte, c'est une anomalie. Nous y sommes habitués, on voit des gens mourir autour de nous. C'est fondamentalement mal. C'est fondamentalement anormal. C'est un problème. Et on nous le rappelle constamment. Et en même temps, à chaque étape, par grâce, le Seigneur donne la possibilité qu'il y ait de la vie qui jaillisse. Il suffit qu'à chaque étape, on a de la mort et de la vie. C'est ça cette succession de « il mourut, il engendra des fils et des filles ». Le plan de Dieu, pardon, je m'avance trop, les choses avancent, l'histoire avance, on a des enfants qui se succèdent. Je m'avance, mais j'arrive à mon troisième point. Ces généalogies, c'est le fil rouge du plan de Dieu. Comme je vous l'ai montré, on peut tout rassembler dans Genèse 1 à 11, et même 12 et la suite, et même l'ensemble du livre, d'où les sous-titres, voici la descendance, on peut tout rassembler comme une seule grande généalogie. De temps en temps, il y a des branches qu'on laisse de côté. On vous parle un peu d'Ismaël, puis après, il n'en sera plus question. On vous parle d'Ésaü, il n'en sera plus question. Mais on peut dessiner un arbre généalogique, vous pouvez vous amuser à le faire, il y a des bibles d'études qui le font d'ailleurs. Vous avez une seule généalogie, le plan de Dieu qui s'écoule. Alors, lire la Genèse en pensant à ça, c'est un petit peu comme quand on joue aux échecs avec Kasparov, c'est l'ancien champion du monde. Vous, quand vous jouez aux échecs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez un petit cerveau, vous avez peut-être un ou deux coups d'avance dans la tête. Il dit, je vais faire ça, et puis après, ah, s'il ne voit pas, je vais faire ça. Alors, deux coups d'avance. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont un peu plus. Hein. Mais quand vous jouez avec un fou furieux, un génie comme Kasparov, lui, il a 10-15 étapes en tête, à l'avance. Il sait qu'ensuite, ah, si vous faites ça, ben vous allez peut-être faire ça, 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 ça. Et lui, il calcule déjà la 15e étape où il va vous attraper au tournant et vous mettre échec et mat. Mais quand vous lisez un livre comme la Genèse, si vous ne vous contentez pas de lire ça comme des gentilles petites histoires et que vous réalisez à qui vous avez affaire comme auteur ultime, ben c'est bien pire que Kasparov. Le Seigneur a une visée dans la tête et il est obstiné. Il a un plan qu'il va mener à bien, quoi qu'il se passe. Pendant qu'il y a des petits épisodes, des péripéties, etc., lui, il a un cap qui est fixé. Et il avance ses pions les uns après les autres. Génération après génération, les choses avancent tranquillement. Mais on peut voir que lui, il a une vision globale. Le déluge, événement, etc. Oui, d'accord, d'accord, c'est énorme, c'est fantastique, c'est très important, j'en reparlerai. Mais en même temps, tout ça, pour Dieu, c'est quoi? C'est une étape dans son plan. C'est pour ça que c'est une étape dans une généalogie. Le Seigneur maîtrise, il domine la situation. Il a une vue d'ensemble que nous perdons trop souvent de vue. Alors maintenant, on lit les choses a posteriori. Donc notre job, c'est d'essayer de prendre ces textes et de voir, après coup, grâce à la manière dont ils se présentent, quel était le plan de Dieu. Et si on réalise ça, je pense qu'on peut mieux lire notre propre époque. J'y viens dans une seconde. Dans ce fil rouge du plan de Dieu, vous trouvez, à chaque étape, un choix souverain de Dieu. Vous savez, souvent, on a tendance à dire, bah, Dieu, oui, bon, dans les cantiques, souvent, c'est un petit peu la guimauve, hein, c'est oh, Dieu, tu m'aimes, je t'aime, etc. Bon, c'est vrai, hein, c'est bien, mais bon, parfois, c'est un petit peu mon pote, enfin, vous savez, on vous le dit peut-être déjà, hein, c'est un petit Dieu, il est très proche de moi, etc. Ben, c'est vrai, et en même temps, Dieu, il est très loin de moi, dans un sens, il est transcendant. Il faut réaliser un petit peu à qui on a affaire. C'est le type qui a créé le monde. Je m'exprime. Comme je peux, hein, mais bon, c'est pour vous frapper. Hein. Sauf qu'il a le droit de choisir ce qu'il veut. Et bien justement, il le fait. Et on peut lire les textes en oubliant qu'il le fait. Il choisit. C'est pas n'importe qui sera dans la lignée, bon, c'est mon étape suivante, la lignée ultime qui va mener au salut. Ah, j'ai fini. d'après mon portable. Ouais, Marion est d'accord, c'est bon, je peux continuer. À chaque étape, il fait des choix. C'est pas Ismaël, même si c'est le fils aîné comme au milieu de l'histoire, au centre de l'histoire d'Abraham, c'est pas lui qui sera le fils de la lignée élue. Certes, il est béni hein, dans le texte, mais c'est pas ça son plan. Pareil pour Ésaü et Jacob. C'est pas Ésaü, celui qui sera en premier, même s'ils sont jumeaux, c'est pas lui, le fils aîné, qui va être le fils de la lignée élue. Pourtant, n'importe qui à l'époque, vous aurez dit, ah bah oui, logiquement, le fils aîné, c'est lui. C'était lui qu'on valorisait. Rappelez-vous l'histoire du droit d'aînesse, justement. Jacob va se battre à ce sujet. Eh bien, c'est Jacob, pourtant un petit peu filou quand même, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va être le choix de Dieu pour faire passer sa lignée élue. Mais cette lignée, comme je vous l'ai dit, on a, je ne sais pas, on a, j'ai quoi, 10 étapes dans Genèse 5, d'Adam jusqu'à Noé. 10 étapes dans Genèse 11, de Noé jusqu'à Abraham, on est d'accord ? Ça fait 20. Et encore, c'est une sélection, toutes ces étapes. On ne vous donne qu'une petite partie dans la généalogie biblique, on vous donne un best-of. Hein. On choisit, on ne raconte pas tout, sinon ça serait beaucoup plus long. Hein. Mais le Seigneur qui voit bien plus loin que Kasparov à l'avance, il a quelque chose en vue qui va bien au-delà de ces 20 générations. Si le texte prend soin de nous montrer que d'Adam jusqu'à Noé, jusqu'à Abraham, il y a une continuité, il y a un fil rouge, eh bien, on va voir que ça continue bien plus loin. Si vous ouvrez vos évangiles, vous allez vous dire, ah, ben, on n'est plus dans l'Ancien Testament, tout ça, évangile, Jésus, tout ça. Vous tombez sur une généalogie au tout début. Matthieu 1. C'est pas moi, hein, c'est Matthieu 1. C'est le Nouveau Testament, généalogie. Et on vous montre quoi ? Ben, on fait la même chose que dans la Genèse. On dit, ben, tiens, on va aller d'Abraham jusqu'à David et de David jusqu'à Jésus. Et on vous montre que d'Abraham jusqu'à Jésus, eh bien, il y a un fil ininterrompu, le fil rouge du plan de Dieu. Qui passera par des choses étonnantes, hein, d'ailleurs. Et si vous ouvrez votre Bible à Luc chapitre 3, on est dans les beaux récits de l'enfance de Jésus, vous tombez sur une autre généalogie. Et dans cette généalogie, on vous fait remonter depuis Jésus jusqu'à Abraham et jusqu'à Adam. Ce qui veut dire que au tout début de la Bible, vous avez des généalogies qui vont d'Adam jusqu'à Abraham, et on prend soin de vous le montrer. Mais de l'autre côté, ceux qui écrivent les évangiles, ils racontent la vie de Jésus, une sélection, une petite sélection de la vie de Jésus. Eh bien, parmi leurs sélections, ils ont absolument tenu, pour Matthieu et Luc, à mettre une généalogie qui rattrape les choses de l'autre côté, qui dit, ben oui, je vais moi dans l'autre sens, je vais vous montrer que de Jésus, je peux remonter jusqu'à Adam. Ou alors, pour Matthieu, d'Abraham, je peux aller jusqu'à Jésus, il y a une ligne droite. Donc, le Seigneur, qui est bien plus intelligent que Kasparov, avait un bon paquet de coups calculés à l'avance qui allaient d'Adam jusqu'à Jésus. Vous voyez pourquoi c'est vraiment le fil rouge du plan de Dieu. Alors, vous allez me dire, c'est du passé. C'est du passé. Enfin, déjà, c'est pas mal de lire le plan de Dieu dans le passé. C'est souvent plus simple que dans le futur, d'ailleurs. Hein. Mais c'est une bonne chose. Mais si on regarde notre vie à nous actuellement, le Seigneur est venu il y a 2000 ans. Ça fait, alors si on compte 20 siècles, et je crois qu'on compte 25 ans par génération, 4 fois 20, 80 générations. On pourrait écrire l'équivalent des généalogies qu'on a dans la Genèse. Un tel a engendré un tel, a engendré Thomas d'Aquin, a... non, il n'a pas engendré. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein ? On engendre, engendre. Hein ? On pourrait une longue histoire comme ça. Et puis parfois on a l'impression que tout ça, ça n'a pas de sens. En gros, l'Église fait parfois n'importe quoi. Il y a, avec un peu de chance, des réformes. Mais globalement, c'est un petit peu n'importe quoi. Le tout, c'est qu'on attend le Seigneur. Et puis là, il y aura l'ordre qui va arriver. Mais n'oublions pas que le Seigneur est un Kasparov puissance 1000. Il a en tête des idées très précises. Il a un plan. Et nous sommes exactement dans la même situation que dans l'Ancien Testament, où le Seigneur a, je sais pas, 80 coups à l'avance. Il a, je ne sais pas combien de coups à l'avance, mais il a le même objectif que dans l'Ancien Testament, la vue d'un homme précis. Cet homme précis, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, aussitôt après la chute arrivée, on pourrait dire, on va laisser tomber l'homme, il fait n'importe quoi. Or, Dieu avait un plan, il est obstiné, il y tient, c'est de faire surgir un jour un homme qui descende de cet Adam qui a échouer, et cet homme, lui, fera bien les choses. De la même manière, actuellement, Dieu laisse courir le temps, il permet que des choses merveilleuses se passent, des gens se tournent vers lui, et en même temps, n'oublions pas qu'il a un plan très précis avec le retour de cet homme qui est déjà venu une fois, un retour qui sera beaucoup plus glorieux. Donc vous voyez, comme ça, si on tient compte de tous ces éléments, pour conclure, je pense qu'on a une bonne vision du plan de Dieu, mais que ça serait une grosse erreur d'oublier que nous sommes encore dans ce plan et que ce qui nous attend, c'est encore beaucoup plus glorieux que ce qui s'est passé à la première venue de Christ. Voilà, merci pour votre attention.